Et jusqu'à 9h, l'invitée de France Inter est députée de l'Essonne, coordinatrice du groupe La République En Marche à la Commission des Finances. Amélie de Montchalin, bonjour.
Bonjour.
Une grosse réforme de la fonction publique a été annoncée jeudi dernier. Possibilité de départ volontaire pour les fonctionnaires, rémunération au mérite, recours accru aux contractuels, simplification des instances représentatives pour prendre quelques mesures. Il y a trop de fonctionnaires en France ?
Non. Ce qui a été annoncé, c'est un an de concertation sur quatre sujets, effectivement, autour duquel tout le monde tourne depuis 10 ans et qui sont au cœur, aujourd'hui, quand même, des difficultés de la fonction publique. Aujourd'hui, les fonctionnaires ne se sentent pas reconnus, et Laurent Berger le dit très bien, ils se sentent considérés comme des coûts. Ce qu'on cherche à faire par cette négociation qui va durer un an, c'est effectivement de regarder comment on redonne au dialogue social dans la fonction publique une vraie nature. On parle de rémunération, comment on parle d'accompagnement et comment ensuite on parle de contrat, comment on recrute dans la fonction publique.
Il y a trop de fonctionnaires en France aujourd'hui ?
Je ne sais pas s'il y en a trop. Ce qui est certain, c'est que si on avait voulu suivre uniquement un objectif chiffré, les 120 000 fonctionnaires dont certains parlent, je pense qu'on aurait pu faire beaucoup plus simple. Vous savez, sur le quinquennat, il y a 550 000 départs à la retraite prévus. On aurait pu appliquer du 1 sur 4, comme ce qu'avait été la RGPP. Notre choix, c'est de faire radicalement différent. C'est d'abord de parler des missions. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui des agents publics ? Qu'est-ce qu'on attend qu'ils fassent ? Comment on leur donne les outils de bien remplir ces missions ? Comment on les rémunère ? Comment on leur offre des contrats ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que depuis des années, on a piloté par le haut et par le chiffre la fonction publique. Ça crée ce que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire une forme de désillusion. Comment nous, agents publics, on remplit notre mission ? Ça crée une forme de distance. Aujourd'hui, vous avez des sondages auprès des agents publics qui sont extrêmement alarmants. Oui. 4% seulement des agents se sentent concernés par la réforme de la fonction publique dans ses missions. C'est-à-dire que le dialogue social a été complètement annihilé par des années de RGPP, par des années de pilotage par le chiffre. Donc la question, c'est est-ce qu'il y en a trop ?
Est-ce qu'il y en a trop ? Alors répondez.
Ma question, c'est quelles sont les missions qu'on alloue à la fonction publique, quelles sont les priorités qu'on se fixe, et à ce moment-là, on regardera où doivent être les agents publics, et si on doit les aider à se réorganiser, c'est notre mission.
Mais sur le dialogue social, vous avez tout de même une approche baroque de la chose, puisque, ça c'est Laurent Berger que vous avez cité de la CFDT qui le dit, on demande une concertation avec les syndicats pour toute l'année 2018, alors que l'ensemble de la réforme est déjà connu, les conclusions sont connues, c'est ce que dit Laurent Berger. Pourquoi ne pas avoir refait ce que vous aviez fait, par exemple sur la réforme du Code du Travail, où les syndicats ont été impliqués dès le début.
Mais c'est exactement ce qui va se passer. J'ai lu la lettre que les organisations syndicales ont reçue vendredi. Elle fait une page et demie. Elle dit, d'ici à la fin du mois de février, nous voulons avec chacun de vous avoir une réunion bilatérale et une réunion collective qui fixe la méthode de discussion qu'on va avoir pendant toute l'année.
Sur ces points qui sont acquis.
Quand je vous dis dialogue social, je n'ai pas dit grand-chose. On sait qu'il y a 22 000 instances de représentation syndicale au sein de la fonction publique. Quand je dis on va discuter pendant un an du dialogue social, rien n'est acté. Quand je vous dis rémunération au mérite, quelle est la part qu'on fixe au collectif et à l'individuel ?
Ça, vous ne savez pas encore.
Il y a de quoi discuter pendant un an. Quand je vous dis accompagnement, formation, 1,5 milliard qui sont dédiés à la formation, 700 millions pour investir dans la modernisation, je n'ai rien dit. Quand je vous dis on veut accompagner, comme on le fait d'ailleurs dans l'armée, certains fonctionnaires qui le souhaiteraient à avoir une carrière dans le privé, je n'ai rien dit. Les droits au chômage, je n'ai pas parlé de savoir s'il y a un chèque, quel est son montant. Quand je vous dis contrat, contrat de 2, 3, 5, 8 ans dans certains domaines, par exemple dans le numérique, je n'ai rien dit.
Donc quand les syndicats...
C'est exactement la même méthode que la loi travail. Vous savez, quand j'ai fait campagne législative au mois de juin, on m'a dit, à l'automne, ça va être l'enfer, il y aura des grèves partout, c'est impossible de réformer, les syndicats ne voudront jamais discuter. Ils ont discuté, on a des ordonnances, elles s'appliquent. On veut faire la même chose. Ça aurait été d'ailleurs assez injuste de considérer qu'on s'occupe du pouvoir d'achat et de la formation des salariés du secteur privé et qu'on ne s'occupe pas de celle du public.
Laurent Berger s'est trompé quand il dit que la méthode n'est pas bonne et que tout est sur la table avant même qu'on soit autour de la table.
Moi, ce que j'aimerais,
il a mal lu la lettre dont vous parlez.
Non, je pense que j'aimerais et je serais ravie d'ailleurs d'échanger avec lui. On sera tous ravis, je pense d'ailleurs à l'Assemblée de le recevoir une fois qu'il aura eu ce rendez-vous de lancement de méthode, parce que on veut construire la négociation et la façon dont elle va se passer avec les syndicats. On a 12 mois devant nous.
Vous ne vouliez pas sidérer le débat public en faisant ces annonces-là, de la manière dont elles ont été faites, comme un gros cocktail de réformes, avant même que les syndicats soient autour de la table ?
Moi, je pense qu'on essaye
de
mettre...
Vous étiez au courant qu'il allait avoir tout ça ?
Il y avait un comité interministériel de la fonction publique qui se réunit à Limoges, qui regarde en détail comment on avance sur ce volet. La conclusion, c'est on va donc conduire pendant 12 mois une concertation sur 4 sujets. Si on parle, par exemple, de la rémunération au mérite, ça fait 10 ans qu'on dit aux fonctionnaires, on va essayer de vous sortir d'espèces de grilles qui vous enferment, où tous les avancements sont faits de manière automatique, où on a extrêmement de mal à valoriser. Il y a des administrations entières qui se réforment, il y a des personnels qui sont extrêmement engagés et qui n'en voient pas la couleur sur leur feuille de paye. Le point d'indice, c'est quand même quelque chose aujourd'hui qui a complètement qui a mis en danger la différenciation qu'on peut faire entre les besoins de la fonction publique hospitalière, les besoins de la fonction publique territoriale, les besoins de la fonction publique d'État. Ce qui est aussi intéressant dans les annonces, c'est que c'est une réforme qui va s'appliquer de tout en bas, comme on dit, à tout en haut. On parle aussi des énarques, on parle aussi des hauts fonctionnaires, de regarder comment on peut aussi leur donner des vrais postes et que eux aussi peuvent aller dans le privé à un moment donné si leurs compétences sont plus adaptées aux chantiers de transformation.
Les énarques et les hauts fonctionnaires, ils y vont très facilement dans le privé, Amélie de Montchalin.
Mais je pense que d'ailleurs les énarques, il y aurait une vraie réflexion à conduire sur comment, vu l'investissement public qui est fait sur leur formation, on les garde dans la fonction publique pour qu'ils aident vraiment à ce que les réorganisations et repenser les missions se fassent pleinement.
Alors laissons les énarques et les hauts fonctionnaires où ils sont, leur sort n'est tout de même pas dramatique. Vous dites quoi aux infirmières des EHPAD, aux médecins d'hôpital psychiatrique, aux gardiens de prison, aux policiers, aux professeurs vous leur dites quoi là ? Vous êtes trop nombreux, on va revoir les modes de recrutement, ou alors vos secteurs seront sanctifiés et sont d'ores et déjà exclus, car très sensibles, de cette réforme. Est-ce qu'il y a des services publics sanctifiés ?
Mais il y en a eu dans le budget. Si vous regardez le budget qu'on a voté, on a fait des choix. On a remis énormément de moyens dans l'éducation nationale. On vient de remettre des moyens de ce qu'est la part de l'État dans les EHPAD. On a réinvesti. Bien sûr que pour toute la partie sécurité, donc à la fois police, gendarmerie, justice, pénitentiaire, bien sûr qu'on est en train d'investir. Donc, c'est pas là aujourd'hui qu'on va faire, entre guillemets, des coupes. C'est pas ça du tout qu'on est en train de porter. Ce que je leur dis aussi, c'est que on a lancé au mois d'octobre le forum de l'action publique. C'est une consultation en ligne qui, pour l'instant, ne reçoit pas énormément de réponses. Je pense qu'elle est essentielle. C'est pas une consultation de façade. C'est un des éléments qui va pouvoir justement alimenter les 12 mois de discussion qui s'annoncent. forum-action-public.gouv.fr, c'est un endroit où, si vous êtes usager du service public ou si vous êtes agent, on vous pose plein de questions sur, justement, votre carrière, quels sont vos besoins.
Enfin, quand vous regardez la grève dans les EHPAD ou dans les prisons, vous avez une petite idée de ce que pensent les gens de leur métier et du sous-investissement chronique dans des secteurs, je le redis, qui sont extrêmement sensibles.
Mais ce qui est intéressant dans ces deux cas, c'est qu'une partie de la difficulté, c'est qu'on a beaucoup de mal aujourd'hui à différencier. Vous avez dans ces endroits des besoins à la fois salariaux, à la fois d'organisation de temps de travail, à la fois de primes, qui sont très différents de ce qui se passe quand vous êtes un personnel administratif d'une collectivité territoriale. Parce qu'on a un statut et parce qu'on a un pilotage extrêmement unifié, quand vous avez ce genre de besoins, c'est très difficile d'être dans le détail et d'être dans la réalité du terrain. Donc sortir de l'égalitarisme, je pense que c'est une bonne chose. D'ailleurs, les agents du service public savent très bien qu'on travaille pas pareil quand on est dans un EHPAD, quand on est un personnel administratif d'une collectivité, ou quand on est au ministère de la Justice, dans un tribunal. Donc on a besoin d'avoir plus d'outils. On a besoin de recréer une vraie politique de ressources humaines.
L'État est-il une entreprise comme une autre ?
Bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Puisqu'il y a énormément de missions de service public qui sont par définition du service public parce qu'elles ne sont pas rentables. Parce que le but du service public, c'est pas d'être rentable, c'est d'apporter du service. C'est d'ailleurs les lois de Roland de 1938, disent les valeurs du service public, qui sont maintenant d'ailleurs inscrites dans le traité d'Amsterdam de l'Union européenne. C'est quoi ? C'est assurer l'égalité, assurer la continuité, assurer la mutabilité, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir suivre les besoins de la société. Donc, bien entendu, le service public n'est pas une entreprise.
Enfin, quand on dit plan de départ volontaire dans la fonction publique, il y a peut-être une petite connotation qui renvoie à l'entreprise. On peut se le dire sans langue de bois.
Les militaires. Il n'y a pas plus souverain, il n'y a pas plus régalien. Depuis qu'on est passé à une armée de professionnels, on a aujourd'hui des gens qui sont recrutés sur des contrats de 2, 3, 5 ou 8 ans. Au bout de 4 ans de service, ils peuvent être accompagnés vers le privé. Vous avez une agence de reconversion qui s'appelle Défense Réconversion qui permet que 70% des militaires qui partent de l'armée, dans l'année, ont retrouvé un métier. Ils font un énorme effort de formation. Est-ce que c'est une entreprise ? Bien sûr que non. Est-ce qu'on accompagne les personnels de manière beaucoup plus poussée que ce qu'on fait dans les autres fonctions publiques ? La réponse est oui.
Bon, on va pouvoir en reparler avec Léa Salamé. entamer avec les auditeurs de France Inter, juste après la revue de presse. Un mot tout de même sur ces deux législatives partielles, deux défaites, deux victoires pour le parti Les Républicains, un député de moins pour La République En Marche. Certes, la participation était faible, mais ça dit quoi tout de même, Amélie de Montchalin ?
Moi, ce que ça dit, c'est que transformer le pays, c'est difficile, que c'est pas magique. Je le vois comme un signe d'encouragement. Par exemple, le pouvoir d'achat, on en parle beaucoup.
La défaite est un encouragement.
Elle est un encouragement pour suivre. On a un projet devant nous qui va durer 2 ans. On le sait, de mise en œuvre, qui est extrêmement difficile. Le pouvoir d'achat. Quand les premiers signes de hausse du pouvoir d'achat se font le 31 janvier, quand vous allez au fil de l'année augmenter la prime d'activité, avoir un chèque énergie, augmenter le minimum vieillesse, augmenter l'allocation à des handicapés, ça prend du temps. Tout ne se passe pas d'un coup de baguette magique. Donc bien sûr, quand vous êtes l'opposition, vous pouvez dire, vous savez, ça marche pas. Mais on n'est pas dans savoir si ça marche ou ça marche pas. On va avoir des preuves. Et moi, ce que je dis depuis le début, c'est qu'effectivement, 2018 est une année difficile. On a voté beaucoup de choses. Ça va prendre du temps pour vraiment se voir dans les effets.
Rien à refaire, rien à revoir, rien à réorienter. Ce sont les électeurs.
Mais dans le Vexin, il y a un énorme problème de mobilité.
On
a
une loi de myopie.
Mais non, c'est pas ce que je dis. Il y a, par exemple, dans le Vexin, un problème de mobilité. Elisabeth Borne porte un projet ambitieux de mobilité du quotidien, de maillage du territoire. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je le prends comme un encouragement à effectivement vraiment travailler sur les effets de nos réformes. Nous ne voulons pas être ceux qui font l'incantation. Nous ne voulons pas être ceux qui, vous savez, lançons des grands principes et puis ensuite on dit on a fait le boulot. Ce qu'on fait, c'est qu'on veut changer en profondeur le pays. Ça ne se fait pas en 6 mois.
Quitte à perdre un député, hein. C'est ça ce que vous dites.
Et bien sûr, moi je suis très déçue.
Si c'est le prix à payer.
Isabelle était une collègue très sympathique et tout à fait engagée et effectivement elle n'est plus dans nos rangs. Donc bien sûr que je suis déçue. Maintenant, je le prends comme un encouragement à continuer. Il faut que ce qu'on fait et des résultats concrets, produisent des effets. Et c'est là-dessus qu'on sera extrêmement vigilant. Vous savez qu'une part de mon engagement, moi, c'est de dire il faut qu'on évalue nos résultats et qu'on puisse ajuster le tir. Mais déjà, attendons que les mesures se mettent en œuvre et qu'on puisse voir est-ce qu'elles marchent ou est-ce qu'elles ne
patience
marchent pas.
Patience, français, c'est ça ce que vous dites.
Oui, c'est forcément une année difficile. Parce qu'on a un calendrier de mise en œuvre et que les résultats ne sont pas immédiats.
Amélie de Montchalin, à tout de suite. La revue de presse, Claude Askolovitch.